Alors nous allons parler de Montaigne aujourd'hui, plutôt c'est Bernard Sèvres qui va nous parler de Montaigne. Je suis donc très heureux de l'accueillir aujourd'hui, je le connais depuis longtemps. Il a été longtemps professeur juste à côté d'ici, professeur de Cagnes au lycée Louis-le-Grand. Il est donc tout près d'un endroit qu'il connaît bien et il est aujourd'hui professeur à l'université de Lille 3. D'esthétique, professeur d'esthétique et de philosophie de l'art. Il a écrit un certain nombre d'ouvrages importants. J'en cite trois, mais c'est surtout le troisième qui importe aujourd'hui. Un livre intitulé « La question philosophique de l'existence de Dieu », publié aux presses universitaires de France. Un livre très important sur l'esthétique musicale, l'altération musicale ou ce que la musique apprend aux philosophes, publié au Seuil. Et enfin, c'est ça qui m'a fait penser à le faire venir, un livre que j'ai lu durant l'été, juste avant de faire le programme de ce séminaire, un très beau livre sur Montaigne qui a pour titre « Des règles pour l'esprit » que je vous recommande et qui est publié lui aussi aux presses universitaires de France. Comme titre pour aujourd'hui, dans ce séminaire sur témoigner, c'est « Témoin de soi-même, modalité du rapport à soi dans les essais de Montaigne ». À toi.
Merci. Je remercie Antoine Compagnon pour m'avoir invité à prendre la parole dans son séminaire et je vous remercie d'être resté pour écouter les quelques propositions que je vais exposé. Témoin de soi-même, modalité du rapport à soi dans les essais de Montaigne, tel est le titre que j'ai donné à mon intervention. Une ancienne et respectable tradition, renouvelée naguère par Daniel Arras, pense ce rapport à soi chez Montaigne sous la catégorie du pictural. Montaigne pratiquerait l'autoportrait littéraire, la peinture de soi. C'est moi que je peins, dit l'avis au lecteur, sur lequel s'ouvrent les essais. Comme Antoine Compagnon l'a signalé tout à l'heure, les incipit sont, en cette matière, extrêmement importants. Un autre texte étaye cette lecture. Je signale, puisque la plupart d'entre vous ont dû prendre les photocopies qui ont été prévues, que j'ai classé les textes de Montaigne auxquels je me rapporterai dans la photocopie. Je les ai classés non pas par ordre d'apparition dans mon discours, si j'ose dire, mais selon l'ordre des chapitres des essais de Montaigne. Il s'agit ici, le texte que j'évoque à présent, il s'agit du chapitre 17 du livre 2, de la présomption. Montaigne écrit « Je vis un jour à Bar-le-Duc qu'on présentait au roi François II pour la recommandation de la mémoire de René, roi de Sicile, un portrait qu'il avait lui-même fait de soi. Pourquoi n'est-il loisible de même à un chacun de se peindre de la plume comme il se peignait d'un crayon ? » Montaigne, bien sûr. Montaigne, comme le bon roi René, se peignait littéralement parlant, Montaigne se réclame du droit de se peindre d'un crayon. Je n'entends pas aujourd'hui contester cette interprétation picturaliste. Simplement, je souhaite proposer une autre approche construite autour de la catégorie du témoignage. Tout autant que peintre de lui-même, Montaigne est témoin de lui-même. Le passage du motif de la peinture à celui du témoignage pourrait se lire dans un passage du chapitre 6 du livre 2 de l'exercitation. Je lis « Mon métier et mon art, c'est vivre ». Qui me défend d'en parler selon mon sens, expérience et usage, qui l'ordonne à l'architecte de parler des bâtiments, non selon soi, mais selon son voisin, selon la science d'un autre, non selon la sienne. À l'aventure, entendent-ils que je témoigne de moi par ouvrages et effets, non nûment par des paroles. Je peins principalement mes cogitations, sujet informe qui ne peut tomber en production ouvragère. À toute peine, le puis-je coucher en ce corps aéré de la voix. » Alors, je n'entends pas tirer un argument trop fort de cette citation, car il semble bien que peindre ici signifie écrire, selon un usage répandu au XVIe siècle. Je ne souhaite donc pas surinterpréter ce passage. Témoigner de soi dans ce texte, puisque Montaigne y emploie littéralement cette expression, témoigner de soi signifie faire la preuve de ce qu'on est, faire la preuve de ce qu'on vaut. Et Montaigne suggère une opposition entre un témoignage fort, par ouvrages et effets, dit-il, c'est-à-dire par actions notables, utiles, voire éclatantes, et peut-être aussi par ouvrages d'écriture bien construits, d'un côté, et de l'autre, témoignage faible, par simple parole, par parole toute nue. La peinture de ces cogitations informes relèverait de ces témoignages faibles et faiblement probants. Dans un geste d'autodépréciation un peu affecté, qui est assez fréquent dans les essais, Montaigne ajoute que c'est à peine s'il peut confier sa pensée au corps aéré de la voix. Passage qui a été souvent commenté, le mot « voix » peut sans doute signifier ici l'ordre du langage en général, mais il peut désigner le langage oral, au sens naturel du mot « voix » en français. Et il importe de rappeler que les essais ont été en partie, non pas directement écrits par Montaigne, mais dictés par lui à un secrétaire, si l'on en croit les travaux récents de George Hoffman et d'Alain Legros. Non moins qu'une recherche de style, l'oralité des essais serait le mode premier de leur énonciation, en tout cas pour un nombre important de chapitres ou de parties de chapitres. Or, cette oralité a un rapport étroit et direct avec la notion de témoignage. Le témoin est d'abord celui qui parle, pour dire ce qu'il a vu et entendu. Une déposition est la fixation par écrit et par le truchement d'un tiers d'un témoignage d'abord oral. Montaigne dictant, dans sa librairie, à son secrétaire, ses cogitations in statu nascendi, serait alors très exactement témoin de lui-même. Dans la langue de l'époque, dans la grammaire du XVIe siècle, Montaigne aurait dit témoin de soi-même. Avant de creuser cette hypothèse et les paradoxes qu'elle recèle, il convient d'examiner, ce sera le premier point de mon propos, la philosophie montagnienne du témoignage. La conception montagnienne du témoignage est elle-même adossée aux pratiques et aux théories du témoignage judiciaire au XVIe siècle. Montaigne a été magistrat 14 ans durant, et des critiques comme André Tournon ou François Roussel ont insisté sur l'importance de l'habitus judiciaire dans l'écriture des essais et la pensée de leur auteur. À la suite d'André Tournon, je rappellerai brièvement l'importance du témoignage oral dans les procédures judiciaires, pénales ou civiles, de la France de la Renaissance, et d'ailleurs, d'une manière générale, de l'Europe de la Renaissance. On peut évoquer, par exemple, le Tractatus de Testibus, traité des témoins, de Ziletus, paru à Venise, en 1568, ou le traité de la preuve par témoin en matière civile, publié par Jean Boisseau de la Borderie en 1582. Nous sommes dans la période où Montaigne écrit ses essais et en donne la première édition. Le trait le plus remarquable de cette procédure orale est l'interdiction faite au témoin d'agencer son témoignage en discours suivi, de le sertir dans une trame, pour reprendre l'expression qu'Antoine Compagnon a employée à un autre sujet tout à l'heure. Ce sera, est-il dit dans ses codes de procédure, au magistrat d'argumenter, de raisonner, de construire, de conclure. Le témoin doit dire de la manière la plus sobre et la plus construite possible ce qu'il a vu ou entendu. Par conséquent, commente André Tournon, je cite, « la déclaration du témoin est faite de paroles erratiques par obligation. C'est une série discontinue de réponses aux questions du magistrat enquêteur enregistrées par le greffier. » Fin de citation. Cette parole de témoin n'a pas à présenter d'autre garantie que le serment de l'énonciateur. Une dernière citation d'André Tournon. Un fait constaté par un regard, énoncé en une assertion, tel est l'idéal de la déclaration testimoniale. Alors, il est bien tentant de rattacher cette conception et cette pratique de la preuve judiciaire par témoin de certains traits marquants de l'écriture de Montaigne. La discontinuité, l'usage de l'ascendette, le non sequitur logique, l'ancrage revendiqué du discours montagnien dans l'expérience sensible de Michel de Montaigne. Un trait d'un autre type mérite d'être en outre relevé. Il s'agit de ces innombrables majuscules de scansion que Montaigne a ajoutées à son exemplaire de l'édition de 1588 des Essais, dit exemplaire de Bordeaux. Il est conservé à la Bibliothèque municipale de Bordeaux et il est couvert d'annotations de la main de Montaigne. Alors, je dis un mot sur ces marques de scansion qui ont beaucoup agité les érudits et spécialistes de Montaigne depuis une vingtaine ou une trentaine d'années. Vous en avez quelques exemples sous les yeux. Les majuscules que vous pouvez lire ici ou là, au milieu d'une phrase, après une virgule ou un point-virgule, ne sont pas des fautes de frappe. C'est Montaigne lui-même qui les a portées de sa main, sur son exemplaire, donc, comme on peut le voir très distinctement dans la fort belle reproduction en quadrichromie de l'exemplaire de Bordeaux donnée par Philippe de Sang en 2002. Et l'édition Tournon des Essais à l'Imprimerie nationale les reproduit intégralement. Or, indique André Tournon, reprenant certains des travaux de Jean-Pierre Levrault sur le style d'écriture des ordonnances royales en France au XVIe siècle, la pratique montagnienne des majuscules en milieu de phrase, après une virgule par exemple, ce qui est tout à fait surprenant, où les marques de segmentation inhabituelles, ces procédés donc mettent l'accent sur le geste de profération et sur l'autorité du scripteur. Il faut ainsi soigneusement distinguer dans le texte définitif de Montaigne, si l'on considère l'exemplaire de Bordeaux comme le texte définitif, il faut soigneusement distinguer donc les majuscules déterminées par la syntaxe et celles, en général inhabituelles et surprenantes, choisies par le scripteur afin de rythmisation et de scansion de son discours. D'une certaine façon, l'usage d'une majuscule au beau milieu d'une phrase signifie « c'est moi, Montaigne, qui parle, et la parole ne vaut que parce que je l'atteste ». Or, ce sont plusieurs milliers de ces retouches d'autographes que l'on peut lire dans l'exemplaire de Bordeaux. Les considérations précédentes relevaient de la contextualisation historique. Il faut à présent en venir au discours explicite de Montaigne sur le témoignage. Deux textes sont ici décisifs, vous les avez tous les deux. Dans le chapitre des cannibales, Montaigne évoque un sien valet ou domestique qui vécut 10 ou 12 ans sur les côtes du Brésil actuel. Au moment de dire ce qu'il pense du Nouveau Monde, dans un des passages les plus fameux des Essais, Montaigne, qui se tait sur les livres qu'il a lus concernant l'Amérique, tient à appuyer explicitement ses analyses sur l'autorité de son témoin, par ailleurs totalement anonyme. Je lis. « J'ai eu longtemps avec moi, donc chapitre 1.31, j'ai eu longtemps avec moi un homme qui avait demeuré 10 ou 12 ans en cet autre monde qui a été découvert en notre siècle, en l'endroit où Villegagnon prit terre, qu'il surnomma la France antarctique. Cet homme que j'avais était homme simple et grossier, qui est une condition propre à rendre véritable témoignage. Car les fines gens remarquent bien plus curieusement, bien plus soigneusement, et plus de choses, mais ils les glosent. Et pour faire valoir leur interprétation et la persuader, ils ne se peuvent garder d'altérer un peu l'histoire. Ils ne vous représentent jamais les choses pures, ils les inclinent et masquent, selon le visage qu'ils leur ont vu. » Je saute un morceau de phrase. « Ou il faut un homme très fidèle, ou si simple qu'il n'ait pas de quoi bâtir et donner de la vraisemblance à des inventions fausses et qui n'ait rien épousé. » C'est-à-dire qu'il n'ait pas épousé un parti. « Le mien, conclut Montaigne, le mien était tel. » Ce texte est tout à fait remarquable. Pour être un bon témoin, il faut remplir l'une et l'une suffit, une seulement, des deux qualités suivantes, ou bien être fidèle, digne de foi, ou bien être simple et grossier. La première qualité est de nature éthique, la seconde de nature épistémique. Dans le premier cas, le témoin s'interdit de gloser et de transformer ce qu'il a vu, parce qu'il est fidèle. Dans le second cas, il n'a ni l'idée ni les possibilités intellectuelles de déformer ce qu'il a vu, parce qu'il est grossier et simple. La condition de simplicité, on l'a vu, est complétée par une condition de neutralité qui n'est rien épousé. Le bon témoin simple et grossier ne doit être militant d'aucun parti et surtout, dans le contexte brutal de cette fin du XVIe siècle, d'aucune religion. S'il est catholique, par exemple, il ne sera pas de la Ligue. Dans les deux cas, véracité ou simplicité, ce sont les choses pures qui nous sont rapportées. Un deuxième texte, tiré du chapitre des livres, chapitre 10 du livre 2, enrichit la philosophie explicite que Montaigne nous propose du témoignage. Ce texte distingue trois catégories d'historiens. Les historiens simples, les historiens excellents et ceux d'entre deux qui gâchent tout. Les premiers disent ce qu'ils ont vu, les seconds ont assez de jugement pour choisir et interpréter, les troisièmes inclinent l'histoire à leur fantaisie. Je ne lis que le début de l'extrait que vous avez sous les yeux. J'aime les historiens ou fort simples ou excellents. Les simples qui n'ont point de quoi y mêler quelque chose du leur et qui n'y apportent que le soin et la diligence de ramasser tout ce qui vient à leur notice, à leur connaissance, et d'enregistrer à la bonne foi toute chose, sans choix et sans triage, nous laisse le jugement entier pour la connaissance de la vérité. Tel est entre autres, pour exemple, le bon Froissart. C'est la matière de l'histoire nue et informe. J'arrête là la citation. « Matière nue et informe » fait écho à l'expression « chose pure » que nous avons lue dans le chapitre des cannibales. On remarquera également l'expression « sans choix et sans triage » qui ressemble fort à un précepte fondamental de la cure analytique dans sa théorisation freudienne, pardonnez l'anachronisme, mais qui consonne aussi avec les pratiques judiciaires du XVIe siècle et également avec les pratiques d'écriture de Montaigne. Le bon témoin idéal serait en fait le témoin qui ne ment jamais. Et on connaît l'horreur toute particulière que Montaigne éprouve pour le mensonge. Mais le pessimisme anthropologique de Montaigne l'incite à ne pas trop compter sur la véracité humaine. En outre, il ne suffit pas d'être vérace, encore faut-il avoir l'entendement droit. Or, Montaigne a plus que quiconque conscience du dérèglement essentiel de l'esprit humain, outil fantasque et dérangé. Montaigne est donc porté à privilégier le témoignage par simplicité. Simplicité qu'il appelle aussi naïveté, en un sens non péjoratif du terme, au contraire, et qu'il pense percevoir chez les cannibales, chez les gens du peuple. Le bon témoin ne doit pas avoir de conscience réflexive concernant l'intérêt ou le sens de son propre témoignage. Le paradoxe du témoignage simple et naïf est celui même de l'immédiateté, elle se perd dès qu'elle se sait. Le trait décisif de la simplicité ou naïveté est l'absence de réflexivité. Voilà pour la philosophie montagnienne du témoignage, mais qu'en est-il donc, deuxième temps de mon propos, de Montaigne envisagé comme témoin ? Montaigne s'est certainement voulu témoin, témoin volontaire de son temps, comme l'a amplement montré Gérald Nakam dans d'excellents livres. Montaigne veut réciter, c'est-à-dire décrire, l'homme, et non pas le former, comme il le dit, chapitre 2 du livre 3, du Repentir. Et on a souvent relevé avec quelle précision et quelle froideur procédurale d'ancien magistrat Montaigne rapportait les circonstances d'événements marquants ou exceptionnels dont il avait été témoin, les deux exemples les plus fameux étant sa rencontre avec une sorcière, rapportée au chapitre 11 du livre 3, des Boiteux, ou sa description d'un enfant monstrueux, rapportée au chapitre 30 du livre 2. Mais ce dont il est question dans notre travail d'aujourd'hui, c'est de savoir en quel sens Montaigne peut être considéré comme témoin de lui-même, et non pas du monde extérieur. L'avis au lecteur, l'incipit des essais, pose d'emblée que la matière du livre, c'est la personne même de son auteur. Ainsi, lecteur, écrit Montaigne, je suis moi-même la matière de mon livre, ce n'est pas raison que tu emploies ton loisir en un sujet si frivole et si vain. Ce thème fondamental sera sans cesse rappelé dans les essais, jusque dans la célèbre formule du chapitre de l'expérience, le dernier chapitre du livre 3, « Je m'étudie plus qu'autre sujet, c'est ma physique, c'est ma métaphysique. » Il faut s'arrêter ici sur un point important, souvent sous-estimé, concernant le titre du livre de Montaigne. Le titre du livre n'est pas, contrairement à ce que l'on croit, « Essai », ni « Les essais ». Le titre du livre de Montaigne, c'est « Essai de Michel de Montaigne ». C'est en effet le titre imprimé en titre courant sur les pages de gauche de toutes les éditions parues de son vivant. J'ai là un reprint de l'édition de 1582, mais le livre est petit et la salle est grande, donc ça ne sert pas à grand-chose de vous le montrer. Alors, selon l'habileté du typographe, il pouvait tantôt imprimer « Essai de M de Monte » ou tantôt « Essai de M de Monta » et parfois « Essai de M de Monté ». Bon, mais enfin, le titre du livre, c'est « Essai de Michel de Montaigne ». C'est bien la première fois que le nom de l'auteur fait partie du titre. Le nom de l'auteur en fait partie du titre, et l'importance de ce point n'a guère été relevée à ma connaissance que par Philippe Dezan. Le double sens du mot « essai » sort d'ailleurs renforcé de ce choix de Montaigne. Car le mot essai a déjà son sens moderne, c'est-à-dire discours théorique s'affranchissant des règles scolastiques et universitaires de validation des énoncés, c'est ça un essai, mais il a surtout son sens premier, expérimentation. Dans le titre du livre « Essai de Michel de Montaigne », le titre, le premier « deux », essai « deux », ne signifie pas « écrit par », mais signifie « pratiqué par ». Essai pratiqué, ou, si j'ose dire, testé, par Michel de Montaigne. Les tests de Michel de Montaigne. Les autotests de Michel de Montaigne, car il est à lui-même sa physique et sa métaphysique. Mais l'avis au lecteur ne se contente pas de fixer le thème du livre. Il précise que le dit auteur, qui est aussi son sujet, est digne de foi. Lisons un autre morceau de cet incipit. C'est ici un livre de bonne foi, lecteur. Je veux qu'on m'y voie en ma façon simple, naturelle, ordinaire, sans contention et artifice, car c'est moi que je peins. Mes défauts s'y liront au vif, et ma forme naïve, autant que la révérence publique, me l'a permis. Que si j'eusse été entre ces nations qu'on dit vivre encore sous la douce liberté des premières lois de nature, je t'assure que je m'y fusse très volontiers, peint tout entier et tout nu. Alors, Montaigne propose ce qu'il faut appeler une auto-attestation, à la fois très simple et très paradoxale. Il ne dit pas « je suis de bonne foi », il dit « c'est un livre de bonne foi », c'est-à-dire écrit de bonne foi par un homme fiable. Puis Montaigne s'attribue à lui-même, et dès l'ouverture de son livre, les deux qualités que nous connaissons déjà, les deux qualités du bon témoin, les deux qualités de fidélité, qualité éthique, et de simplicité, qualité épistémique, dont une seule, nous l'avons vu, suffit à faire le bon témoin. Mais Montaigne a les deux. Ces deux qualités ne sont pas comparables. Se dire vérace est à la portée de n'importe quel menteur. Alors que la simplicité d'écriture ou de présentation peut en principe être saisie et presque vérifiée par le lecteur à même la chair du texte. En tout cas, on peut l'espérer. Le gage de la véracité de Montaigne tient dans une expérience de pensée, celle de la nudité. « Si j'osais, je le ferais », dit Montaigne. C'est la révérence publique, le respect des conventions, qui empêche Montaigne de se peindre tout nu comme vivent les cannibales. Mais la nudité vaut aussi comme signe de simplicité naturelle, comme les cannibales toujours. Le paradoxe est en effet que la vraie simplicité, on l'a vu, ne se connaît pas comme telle et se dit encore moins. Le motif de la nudité, dans cet incipit célèbre, condense donc, dans l'unité d'une image très forte, les deux qualités de véracité et de simplicité que Montaigne s'attribue et qui font de lui un excellent témoin de lui-même. Il faut entendre ces déclarations liminaires du livre des Essais de Michel de Montaigne moins comme des descriptions de soi, comme on pourra en trouver dans le livre, que comme les termes d'un contrat avec le lecteur. Il y a bien sûr de l'ironie et une bonne dose de captatio benevolentiae dans la pirouette finale. Ce n'est pas raison que tu emploies ton loisir en un sujet si frivole et si vain. Mais cette formule piquante a une fonction essentielle de validation à l'orée du livre, mais hors le livre proprement dit, puisque l'avis au lecteur est à la frontière, sur le seuil. Le statut particulier de ce texte est d'ailleurs typographiquement marqué dans toutes les éditions parues du Vivant de Montaigne par l'usage de l'italique. Si le lecteur franchit le seuil, tourne la page et commence à lire, alors c'est qu'il accepte. C'est qu'il accepte l'auto-attestation montagnienne, c'est qu'il ratifie la proposition selon laquelle Montaigne, parlant de lui-même, est à la fois simple et vérace. Le livre parle de Montaigne, mais l'avis au lecteur parle du livre, comme témoignage de soi. Lire le livre, accepter de lire le livre, c'est signer en acte le pacte de lecture, accepter de voir en Montaigne un fidèle témoin de lui-même. Mais comment peut-on être témoin de soi-même? Le témoignage porte par définition sur des choses ou des événements extérieurs. Le bon témoin est celui qui n'est pas concerné par ce qu'il voit. Et les codes de procédure du XVIe siècle que j'ai évoqués prévoyaient bien sûr des cas d'empêchement testimonial. On ne recevra pas un témoignage quand il porte sur le frère, la femme ou un parent quelconque du témoin. C'est de simple bon sens. A fortiori, s'il s'agit de soi-même. Comment prêter foi à quelqu'un qui témoigne de soi? On trouve dans les essais deux réponses à cette question. La première est que le témoignage de Montaigne n'est pas local ou régional, mais universel. Il ne concerne pas tel ou tel fait particulier que Montaigne aurait pu voir, mais le moi-même de Michel de Montaigne. C'est pourquoi il s'agit d'un témoignage à charge et à décharge, pour prendre une formule anachronique. « Mes défauts s'y liront au vif », annonce Montaigne, on l'a vu, Selon une stratégie qui court de Saint-Augustin à Rousseau, et malgré les différences considérables des visées et des styles, l'aveu des fautes et des défauts garantit la sincérité, ou est censé garantir la sincérité, de la totalité du texte où ces fautes et ces défauts sont consignés. La seconde réponse, beaucoup plus intéressante, se trouve dans un passage concernant Tacite, l'historien romain, à la fin du chapitre « De l'art de conférer », chapitre 8 du livre 3, qui est un chapitre, pour toutes sortes de raisons, cardinal des essais de Montaigne. Montaigne écrit « Cela m'a semblé aussi un peu lâche qu'ayant eu à dire qu'il avait exercé certains honorables magistrats, c'est-à-dire une magistrature honorable, à Rome, il, Tacite, aille s'excusant que ce n'est point par ostentation qu'il l'a dit. Ce trait, dit Montaigne, ce trait me semble bas de poil pour une âme de sa sorte, car le n'oser parler rondement de soi a quelque faute de cœur, un jugement roide et hautain, et qui juge aisément et sûrement, il use à toute main des propres exemples, c'est-à-dire de l'exemple de soi-même, ainsi que de choses étrangères, et témoigne franchement de lui comme de choses tierces. Il faut passer par-dessus ces règles populaires de la civilité, règles qui nous prescrivent de ne pas parler de nous, il faut passer par-dessus ces règles populaires de la civilité en faveur de la vérité et de la liberté. J'ose non seulement parler de moi, mais parler seulement de moi. Je fourvoie quand j'écris d'autres choses et me dérobe à mon sujet. Je ne m'aime pas si indiscrètement et ne suis si attaché et mêlé à moi que je ne me puisse distinguer et considérer un quartier comme un voisin, comme un arbre. C'est pareillement faillir de ne voir pas jusque où on vaut ou d'en dire plus qu'on en voit. Alors ce texte est vraiment extraordinaire. Témoigner franchement de soi, c'est témoigner de soi comme de choses tierces. C'est se considérer à quartier, c'est-à-dire à part, comme si on n'était pas soi. C'est parler de soi comme si on arrivait à se dissocier de soi, à se démêler de soi, à se détacher de soi. Je ne fais que reprendre les mots mêmes du texte de Montaigne. Et Montaigne surrenchérit. Il faut se considérer comme un voisin, comme un arbre. Si vous m'autorisez à pasticher le titre d'un livre célèbre que nous retrouverons un peu plus tard, c'est « Soi-même comme un arbre ». Comment un tel éloignement de soi est-il possible? Comment un tel renoncement à l'attachement primordial à soi est-il possible? Comment puis-je me considérer comme un voisin, comme un arbre? Alors, je voudrais, avant de traiter cette question, indiquer une piste que je ne peux pas suivre aujourd'hui, que je ne fais qu'indiquer. Ce renoncement à l'attachement primordial à soi, qui est la condition épistémique du témoignage de soi, cette distance creusée de soi à soi, Montaigne, je pense, on a d'abord fait l'expérience dans son amitié avec la Boétie. Quand Montaigne peint, dans le chapitre de l'amitié, chapitre 29 du livre 1, quand Montaigne peint l'incroyable fusion de leur volonté, de leur pensée et de leur vie, il écrit « C'est un assez grand miracle de se doubler. » Se doubler parce que l'ami est véritablement et littéralement alter ego, un autre moi-même. Il me semble qu'il existe chez Montaigne une correspondance étroite entre la structure de l'amitié parfaite et celle du témoignage de soi. Dans l'amitié parfaite, un doublement. Dans le témoignage de soi, un dédoublement. L'un et l'autre, également énigmatique, est source de paradoxes logiques. S'il y a une casuistique paradoxale de l'amitié parfaite, il y a une casuistique non moins paradoxale de l'auto-témoignage. Mais pour des raisons qui ne sont pas seulement de biographie, je pense que quelque chose, dans les 4 années qu'a duré l'amitié parfaite, de Montaigne et la Boétie, préparer l'expérience future du témoignage de soi-même que Montaigne devait pratiquer. Ce quelque chose a à voir avec le décentrement de soi et même la déprise de soi. Dans l'amitié parfaite, quand dans le témoignage de soi, je me déprends de moi. Dans le même chapitre de l'amitié, Montaigne écrit « Après la mort de l'ami, après la mort de la Boétie, il me semble n'être plus qu'à demi. Cet être à demi, cet être réduit de 50%, était peut-être nécessaire au dédoublement constitutif de l'auto-témoignage. » Mais, j'en viens au troisième point de mon propos, qui en comportera 4, avant de développer le paradoxe logique du dédoublement propre au témoignage de soi, il nous faut faire un dernier détour. Il nous faut repartir du commencement, c'est-à-dire de l'entrée en écriture de Montaigne. On sait que Montaigne a proposé deux récits différents de son entrée en écriture. Ces deux récits sont contemporains au sens où ils se trouvent tous deux dans l'édition Princeps de 1580. Il ne s'agit donc pas d'un réaménagement ou d'un ajout postérieur comme on peut en trouver ailleurs dans les essais. Or, ces deux récits sont incompatibles entre eux. Je commencerai par le récit du chapitre « De l'affection des pères aux enfants », chapitre 8 du livre 2. C'est une humeur mélancolique et une humeur par conséquent très ennemie de ma complexion naturelle, produite par le chagrin de la solitude dans laquelle il y a quelques années que je m'étais jeté, qui m'a mis premièrement en tête cette rêverie de me mêler d'écrire. Et puis, me trouvant entièrement dépourvu et vide de toute autre matière, je me suis présenté moi-même à moi pour argument et pour sujet. C'est le seul livre au monde de son espèce, d'un dessin farouche et extravagant. Il n'y a rien aussi en cette besogne digne d'être remarqué que cette bizarrerie. Alors, l'entrée en écriture, d'après donc ce récit du chapitre 8 du livre 2, serait une réaction ou une réponse de Montaigne à une crise de mélancolie étrangère à la nature profonde de Montaigne. Crise de mélancolie suscitée quand Montaigne, en 1570, après la mort de son père, décide de résigner ses charges de magistrat et de gérer, enfin, dans la langue de l'époque, de ménager son domaine et de se retirer avec ses livres, ses souvenirs et sa pensée. L'explication est plausible, la crise de mélancolie, mais c'est la suite qui est beaucoup plus étrange. Montaigne déclare qu'il s'est choisi lui-même comme sujet de son livre parce qu'il n'a trouvé aucune autre idée, faute d'autres matières. Et il a cette formule véritablement extraordinaire que nous conservons dans un coin de notre mémoire. « Je me suis présenté moi-même à moi, pour argument et pour sujet. » Oserais-je dire que cette explication n'est pas plausible? Lorsque Montaigne se met à écrire les premiers chapitres des Essais, vers 1572 vraisemblablement, il a déjà publié, en 1569, 3 ans auparavant, une traduction française de la longue « Theologia Naturalis » de Raymond Sebond. Il a publié en 1570 une partie des œuvres de la Boétie par petits livrets distincts, en rédigeant pour chacun de ces petits livrets une lettre préface. Il a derrière lui 14 années d'expérience judiciaire et de réflexion critique sur cette expérience. Il a durant 4 ans conféré avec un homme de la trempe de la Boétie. Il a réfléchi en profondeur sur les troubles publics, qui partagent d'ailleurs sa famille, puisque, si lui-même est catholique, 2 de ses frères sont protestants. Il est tout de même assez douteux qu'un pareil homme, un pareil observateur et un pareil lecteur se soient trouvés l'esprit vide de toute matière, s'étant décidé à écrire. Je me tourne donc maintenant vers l'autre récit, celui du chapitre 8, mais du livre 1, cette fois-ci de l'oisiveté, car ce récit est tout différent. Le début du chapitre oppose la fertilité désordonnée des terres sauvages et la fécondité réglée des terres cultivées. Puis ensuite, Montaigne écrit, je lis, « Dernièrement que je me retirais chez moi, délibérer autant que je pourrais, ne me mêler d'autre chose que de passer en repos, et à part, ce peu qui me reste de vie. Il me semblait ne pouvoir faire plus grande faveur à mon esprit que de le laisser en pleine oisiveté, s'entretenir soi-même et s'arrêter et rasseoir en soi. » Ce que j'espérais qu'il puisse m'essuyer faire plus aisément, devenu avec le temps plus pesant et plus mûr. Mais je trouve, variam semper dant otiam entem, que au rebours, et c'est là où le texte devient très intéressant, au rebours, faisant le cheval échapper, il se donne 100 fois plus d'affaires à soi-même qu'il n'en prenait pour autrui. Et m'enfante, tant de chimères et monstres fantasques, les uns sur les autres, sans ordre et sans propos, que pour en contempler à mon aise l'ineptie et l'étrangeté, j'ai commencé de les mettre en rôle, espérant, vous avez une belle majuscule de scansion d'ailleurs ici, espérant, avec le temps, lui en faire honte à lui-même. Alors, sur un point, ce récit du chapitre de l'oisiveté converge avec le récit précédent, l'entrée en écriture à la signification d'une autothérapie. Mais le choix de soi comme thème, choix par défaut dans le récit précédent, est ici, au contraire, moteur central et justifié. Montaigne décrit ici non la mélancolie, mais une folie native de son esprit, Bon, il y a une nuance que je ne creuse pas. Livré à lui-même, l'esprit divague, délire, entasse chimères et monstres fantasques les uns sur les autres. Montaigne décide alors de fixer par écrit le contenu de ses divagations, dans une visée thérapeutique en deux et même trois temps. Il s'agit d'abord de pouvoir contempler, c'est-à-dire examiner tout à son aise, l'ineptie et l'étrangeté de ses délires. La démarche est ici anthropologique, psychologique et cognitive. C'est une démarche d'objectivation scripturale, c'est une démarche sûre. On peut écrire, si on en a le courage, les folies qui nous traversent l'esprit. Le second temps est beaucoup moins assuré. Il relève de l'espoir, espérant avec le temps. Espoir que cette prise de conscience de la folie permette de faire honte à l'esprit. Car le troisième temps de cette thérapie singulière n'est pas énoncé, mais il est sous-entendu. La honte ainsi produite devrait amener la guérison de l'esprit malade. Et donc la séquence complète comporte cinq temps. Production délirante de l'esprit oisif, relevé écrit de ses productions, examen du texte écrit, consignant ses productions, honte de soi consécutif à l'examen, guérison consécutif à la honte de soi. Alors, il n'est pas sûr que la honte produise la guérison, mais ce n'est pas ce point que je vais discuter. Alors, pour des raisons que j'ai exposées ailleurs, il me semble que cette expérience traumatique des délires de l'esprit, des délires de son esprit, offre une explication beaucoup plus satisfaisante de l'entrée en écriture de Montaigne que celle exposée dans le chapitre 8 du livre 2. Mais ce qui m'importe est de relever le caractère procédural et juridique de la démarche que décrit Montaigne. Il ne dit pas qu'il va écrire ou qu'il va noter les chimères de son esprit, il dit qu'il va les mettre en rôle. Rôle est un terme juridique, et plus encore administratif, désignant une liste d'affaires à traiter ou un registre sur lequel on transcrivait des actes notariés. Ce qu'on appelle aujourd'hui main courante dans les commissariats de police en est une assez bonne approximation contemporaine. L'officier de police ou de gendarmerie écrit au fur et à mesure, sans ordre autre que factuel, ce qui est porté à sa connaissance. Il ne fait qu'enregistrer dans une main courante, sans autre effet que d'avoir enregistré. Mettre en rôle signifie pour Montaigne écrire ses pensées sans ordre, comme elles lui viennent, sans élaboration secondaire. Antoine Compagnon a montré dans son grand livre sur la citation, La seconde main ou le travail de la citation, combien l'écriture de Montaigne relevait de cette seconde main. J'ajouterai, si on m'autorise, ce qui est un peu un jeu de mots, qu'elle relève aussi des procédures de la main courante. La pratique d'écriture que Montaigne décrit à la fin du chapitre de l'oisiveté et qui est loin de toujours correspondre à ses pratiques effectives se situe quelque part à mi-chemin de l'écriture freudienne du rêve au petit matin et du témoignage erratique et brutal tel qu'on l'entendait dans le monde judiciaire du XVIe siècle. Le récit du livre 2, quant à lui, me paraît assez auto-ironique. Il est d'ailleurs pris dans une stratégie relativement compliquée, mais le temps passant, je peux laisser cette stratégie du livre 2 de côté. Du récit du livre 2, et je termine mon troisième point là-dessus, nous garderons en mémoire la formule « Je me suis présenté moi-même à moi ». Ce détour par l'entrée en écriture avait pour fonction, on s'en souvient, d'éclairer le paradoxe immanent au témoignage de soi. Pour le dire un peu trivialement, celui qui témoigne de soi a tout intérêt à mentir, voire à se mentir à lui-même. La visée thérapeutique décrite par le chapitre de l'oisiveté montre au contraire que Montaigne a tout intérêt à ne pas mentir, à ne pas se mentir, s'il veut dompter les monstres et chimères qui le hantent. Cette remarque, jointe à l'auto-assertion de véracité, peuvent suffire à résoudre le premier paradoxe, qui est un paradoxe de nature éthico-juridique. Peut-on faire confiance à un témoin de soi-même ? Oui, s'il donne des marques solides de franchise et surtout, s'il a intérêt à ne pas se raconter d'histoire, si par exemple sa véracité est la condition de sa guérison. Cette remarque provisoire ou cette conclusion provisoire ne suffit pas cependant à lever toutes les difficultés et notamment le soupçon de mauvaise foi, ce concept étant entendu au sens où Sartre le construit dans l'être et le néant. La mauvaise foi n'est pas question de morale, c'est une question d'ontologie. Si l'homme n'a pas d'essence, selon Sartre, parler de soi conduit à se donner une essence, c'est-à-dire à se considérer comme une chose, et à nier sa liberté, est ce que Sartre appelle la transcendance de l'ego. Or, rappelons-nous que Montaigne voulait se considérer comme un voisin, comme un arbre. C'est pourquoi le projet de sincérité est pour Sartre un projet de mauvaise foi. L'idéal de la bonne foi est encore un idéal de mauvaise foi, car c'est un idéal d'être en soi. Or, je ne suis jamais en soi pour ça, puisque je peux toujours être tout à fait autre chose que ce que j'ai été jusqu'à aujourd'hui. La bonne foi revient à réifier, à figer, à fixer. Alors, ces analyses de Sartre, je ne veux pas les développer davantage, elles sont célèbres, elles sont brillantes, elles sont péremptoires, et je pense qu'à certains égards, elles sont fausses. Surtout si on les applique au texte des Essais de Michel de Montaigne. Bien sûr, le risque de la mauvaise foi, au sens technique sartrien du terme, est-il inhérent à tout témoignage de soi, à tout récit de vie, et c'est l'intérêt des 30 pages flamboyantes que Sartre lui consacre que de souligner assez violemment ce risque. Mais tout le travail d'écriture de Montaigne vise précisément à conjurer ce risque et à dépasser le paradoxe. L'ordo neglectus de Montaigne, son décousu, ses contradictions, ses retouches, sa poétique à saut et à gambade, toute sa poétique, en fait, vise à éviter la réification de soi, qui est la définition sartrienne de la mauvaise foi. Lorsque Montaigne, dans le texte déjà évoqué, dit qu'il faut se considérer à Cartier comme un voisin comme un arbre, lorsqu'il écrit qu'il faut témoigner franchement de soi comme de choses tierces, c'est sur le « comme » qu'il faut mettre l'accent, et non pas sur « chose », « voisin » ou « arbre ». C'est au fond une règle de méthode, comparable peut-être à la première des règles de la méthode sociologique selon Durkheim, considérer les faits sociaux comme des choses. Mais l'auto-témoignage pose un second et dernier problème, autrement redoutable, et qui est de nature indissolublement éthique et métaphysique. Quel est ce soi dont on porte témoignage? Quel est ce soi qui porte témoignage? Sont-ce le même soi? Ce second problème ou paradoxe tient au dédoublement du sujet témoin de lui-même. Le moi de Montaigne, le moi dont il témoigne, est instable, ou pour reprendre son propre mot, inconstant. 4 citations suffiront, toutes très brèves. 3.13, enfin, chapitre 13, livre 3. « Toutes nos actions sont doubles et bigarrées à divers lustres. » 2.20, « L'homme en tout et partout n'est que rapiècement et bigarrure. » 2.1, « Et se trouve autant de différences de nous à nous-mêmes que de nous à autrui. » 3.9, « Moi à cette heure et moi tantôt sommes bien deux. » Toutes ces phrases vont dans le même sens, introduire la dualité au sein même du « moi » dont il est témoigné. La dualité et même la pluralité. La question n'est pas ici de celle du « comment » mais celle du « qui ». À la question « comment témoigner de cette bigarrure ?», Montaigne, on l'a vu, répond par une poétique du rapiècement, de la retouche et de la bigarrure. Bien. Mais la question « quel est le « moi » qui témoigne de ce « moi » bigarré ?» est plus difficile. D'un côté, comment le moi instable de Montaigne pourrait-il témoigner de lui-même? L'acte même de témoigner par écrit ou par oral suppose un minimum de stabilité, la constance d'un projet, la permanence d'une écriture. D'un autre côté, Montaigne ne s'en tient pas à la discontinuité de paroles erratiques, propres aux témoignages portant sur des choses locales, mais inappropriées quand il s'agit d'un témoignage portant sur la totalité du moi. Son livre vise autre chose qu'à accorder la dignité de la chose écrite à une poussière de faits insignifiants. Dans l'auto-témoignage, le moi de Montaigne relève, à mon sens, d'un tout autre régime d'identité que le moi dont il témoigne. Et je m'appuierai ici sur certaines distinctions proposées par Paul Ricoeur, dans « soi-même comme un autre », en précisant que ces emprunts lexicologiques ne valent pas forcément adhésion de ma part aux thèses soutenues par Ricoeur dans ce grand livre. On pourrait penser dans un premier temps que le soi dont il est témoigné relève de ce que Ricoeur appelle l'identité idem, l'identité métaphysique définie par la permanence dans le temps, ce qui est inchangeable dans le changement. Et que le moi, pourrait-on toujours penser, qui témoigne, relève de ce que Ricoeur appelle l'identité ipse, ou ipséité, ipse signifiant c'est moi qui, hein, ou c'est lui qui, hein, ipséité assumée dans et constituée par l'engagement moral d'un sujet qui dit Je m'engage. Ipse feci, c'est bien moi qui l'ai fait. Mais Montaigne récuse totalement l'idée d'une identité métaphysique. Le moi dont témoignent les essais, le moi objet des essais, ne se caractérise certainement pas par la permanence dans le temps. Montaigne passe son temps à dire le contraire. Il faut donc plutôt se tourner vers une deuxième distinction proposée par Paul Ricoeur, une distinction cette fois-ci interne à l'ipséité, la distinction entre le pôle du caractère et le pôle de ce que Ricoeur appelle le maintien de soi. Le caractère, c'est ce par quoi, dit Ricoeur, la personne se rend identifiable et réidentifiable. Le maintien de soi est le pôle proprement éthique. Le caractère, selon Ricoeur, correspond assez bien à ce que Montaigne appelle sa complexion. Et le maintien de soi correspond assez bien au projet thérapeutique d'entrée en écriture, projet qui, d'ailleurs, fut rapidement prolongé et dépassé par Montaigne par le projet proprement éthique d'une ars vitae marquée par l'essai de soi et de ses facultés naturelles. Alors, ce disant, je n'entends absolument pas plaquer Ricoeur sur Montaigne ou proposer des correspondances artificielles entre le discours de Paul Ricoeur et l'expérience de Montaigne. Je pense en réalité que cette expérience de Montaigne résiste à ce discours de Ricoeur qui pourtant l'éclaire. Car certaines formules, ou au moins une formule de Ricoeur, est extrêmement étonnante. À la page 197 de Soi-même comme un autre, Ricoeur demande « Comment dire à la fois ? Comment peut-on dire à la fois ? Qui suis-je ? Et me voici. » Alors, Paul Ricoeur ne pense absolument pas à Montaigne, qu'il ne nomme absolument jamais dans son œuvre pourtant abondante, et il est dommage qu'il ne l'ait pas rencontré, mais peu importe. Ces deux expressions sont donc prises par Ricoeur en un sens tout à fait particulier que je néglige. Je prends simplement ces deux formules en elles-mêmes, car ce qui m'importe est que ces deux expressions conviennent parfaitement à Montaigne. Montaigne est en effet l'homme qui dit à la fois tout au long de son livre « Qui suis-je ?» et qui en même temps dit « Me voici ». Son acte d'autotémoignage se situe au point de rencontre et de heurt de cette question « Qui suis-je ?» et de cette auto-affirmation « Me voici ». J'en viens à la conclusion de mon propos. Que se passe-t-il donc quand Montaigne prend la plume pour mettre en rôle ces monstres et ces chimères? Il se met à distance de lui-même, distance peut-être préparée par l'expérience singulière de son amitié avec la Boétie. Il s'observe comme un arbre ou un voisin. Il se présente lui-même à lui, mais le lui-même présenté, on peut même dire, conformément à la grammaire du XVIe siècle, le soi-même présenté, est sans consistance, tissé qu'il est, d'inconstance, de rêve, de cauchemar, de fluidité. Mais c'est le geste même de présentation, je me présente moi-même à moi, qui fait émerger l'ipséité, laquelle, si j'ose dire, tient la plume. Le témoin qui écrit n'est institué comme témoin, témoin de soi, que parce qu'il lui est fait présentation de soi. Or, la présentation a lieu sous le régime du « comme ». Le « moi » dont il y a à témoigner se présente comme un voisin ou comme un arbre. Or, dans ses études sur la métaphore, Paul Ricoeur, dans la métaphore vive, a fortement analysé la double valence du « comme ». Être « comme », c'est à la fois être et n'être pas. Cette tension constitutive de l'être « comme » est au cœur du témoignage de soi. Elle permet de comprendre l'effet retour du livre sur le scripteur. L'auto-témoignage, en effet, modifie le témoin, et de cela, le témoin de soi doit aussi porter témoignage. Montaigne n'y manque pas. Dans un ajout tardif sur l'exemplaire de Bordeaux, au chapitre « Du démentir », je ne l'ai pas reproduit sur les feuilles, malheureusement. Montaigne écrit, donc chapitre 18 du livre 2, Montaigne écrit « Je n'ai pas plus fait mon livre que mon livre m'a fait, livre consubstantiel à son auteur. Ai-je perdu mon temps de m'être rendu compte de moi si continuellement, si curieusement ?» Alors, m'être rendu compte, ça veut dire m'être rendu des comptes à mon sujet. Hein, si curieusement, donc si soigneusement. Hein. Se rendre compte, c'est témoigner de soi. Or, c'est le travail d'écriture qui a rendu Montaigne attentif à lui-même. Il dit un peu plus loin, « J'écoute à mes rêveries, je fais attention à mes rêveries, parce que j'ai à les enrôler, à les écrire comme elles viennent, à les mettre en rôle, à les noter, sans choix et sans triage. » Or, l'acte de mettre en rôle ses pensées, de se rendre des comptes à soi-même, contribue, dit Montaigne, à former le modèle, le « moi », objet du témoignage. Dans la dialectique de l'être « comme », le « moi » dont Montaigne témoigne passe ainsi du pôle du « n'être pas » au pôle de l'être. Greffié de ses fantaisies et de ses cogitations, témoin scrupuleux de lui-même, Messire Michel, seigneur de Montaigne, c'est le nom qu'il se donne sur la page de couverture de l'édition de 1580, Messire Michel, seigneur de Montaigne, se considérait à Cartier comme un voisin ou comme un arbre. Mais voici que le cercle de l'autotémoignage s'est ouvert. Le scripteur est devenu auteur, deux fois auteur, auteur d'un livre intitulé en un seul souffle, Essai de Michel de Montaigne, et par ce livre, auteur de soi. Je vous remercie.
merci pour ce très bel exposé, magnifique parcours sur Montaigne, témoin de lui-même. Ce que j'aurais envie d'ajouter vers la fin, enfin, je ne saurais être plus d'accord avec ce que tu disais vers la fin et de la lecture de Ricoeur, c'est que dans l'engagement moral de l'ipséité, ce qui intervient, c'est à la fois l'autotémoignage et l'engagement vis-à-vis de l'autre par le témoignage et notamment par le fait qu'il soit rendu public. Quand Montaigne dit « Je n'ai pas plus fait mon livre que mon livre ne m'a fait », c'est le livre non seulement écrit, mais publié. Vers la fin de ton propos et à travers les allusions à Ricoeur, je serais, quant à moi, tenté de dire que dans le maintien de soi, il y a non seulement le projet thérapeutique, mais l'engagement vis-à-vis de l'autre, parce qu'il y a tout ce discours, en particulier dans le livre 3, où l'absence de permanence du moi, idem si tu veux, l'absence de permanence du moi ne m'autorise pas pour autant à me présenter différemment à l'égard de l'autre, notamment dans le contexte des guerres de religion. Ce n'est pas parce que moi à cette heure et moi tantôt sommes bien deux que l'autre est en droit de ne pas compter que l'autre n'a pas à compter sur ma permanence. Donc, il y a cette limite-là qui intervient de manière insistante à toute bigarrure du moi. Donc c'est non seulement l'autotémoignage, mais je dirais la publication de ce témoignage qui modifie les termes du contrat, en particulier dans le livre 3, puisque c'est une méditation qui porte également sur la publication du livre. Voilà. Qu'est-ce que tu as eu ?
Alors, concernant Ricoeur, je n'ai pas creusé trop la confrontation entre Ricoeur et Montaigne. J'étais pour ainsi dire happé par ces deux formules autour desquelles Ricoeur tourne dans sa sixième étude, de soi-même comme un autre. Qui suis-je ? Me voici. Ça m'a paru presque impossible de ne pas penser à Montaigne et de constater que, de toute façon, Montaigne est totalement absent de l'horizon de réflexion de Ricoeur. C'est pourquoi j'ai dit je ne valide ni n'invalide, enfin je suspends complètement la question de la pertinence des analyses de Ricoeur en elle-même et me voici ou qui suis-je qui ont un sens tout à fait précis chez Ricoeur, j'écarte complètement ce sens. Bon, c'est donc un petit peu un piratage de ma part par rapport à Ricoeur. Mais alors là où je te donne tout à fait raison, c'est qu'effectivement chez Montaigne l'impermanence, l'insubstantialité du moi ne l'empêche pas d'être quelqu'un sur qui on peut compter. Et il dit explicitement dans une formule dont je ne sais plus très bien où elle se trouve, la loi de ma parole, c'est-à-dire de mon engagement, est plus inviolable que les murailles. Bon, c'est fort de dire ça. Bon, quand Montaigne donne sa parole, c'est définitif et c'est pour toujours. Alors évidemment, là, c'est un petit côté ricœurien, si on veut. Ça, c'est vrai. Mais on n'est plus dans le registre du témoignage de soi. Et donc, je ne voudrais pas qu'on pense que pour Montaigne, tout dans les essais de Michel Montaigne est témoignage de soi. Le projet de témoignage de soi, qui est le point de départ, se transforme donc en ars vitae, mais ce n'est pas une ars vitae, un choix de vie qui soit égoïste ou au contraire. Et encore une fois, il y a beaucoup de choses dans les essais qui ne relèvent pas du témoignage de soi, sauf au sens où ils sont pris dans une espèce de grand mouvement dont la modalisation générale est témoigner de soi-même. Mais ensuite, Il y a beaucoup d'autres choses. Et donc, je suis tout à fait d'accord avec toi sur ce point-là.
C'est-à-dire qu'à la fin de la physionomie, il y a ce passage assez extraordinaire où Montaigne fait valoir que même si je donnais ma parole à des bandits,
oui,
je suis tenu par ma parole.
Tout à fait. Tout à fait.
Une fois que je suis libéré, je dois payer la rançon,
tout à fait,
même si elle m'a été extorquée par la violence. C'est-à-dire que Montaigne va plus loin,
oui,
qu'aucun autre, que Cicéron, qu'aucun autre penseur.
Ah, il va plus loin que n'importe quel juriste, théologien ou moraliste.
Ouais, voilà. Et c'est donc dans une exigence de fidélité à soi,
oui,
et d'identité, malgré tous les discours sur malgré tout le témoignage sur l'impermanence. C'est-à-dire que c'est dire que d'une certaine façon que le moi qui témoigne est engagé par son témoignage.
Oui.
Oui. Par rapport à ce que tu disais. Moi qui a témoigné,
oui,
est engagé par son témoignage.
Oui, c'est ce que j'essayais de suggérer à la fin, en rappelant, enfin, un passage bien connu, ce livre, je n'ai pas plus fait mon livre que mon livre m'a fait. C'est-à-dire que c'est effectivement cet engagement, une fois qu'il s'est mis sur la place publique.
Une fois qu'il est public. Hein,
une fois qu'il est public, eh bien, il y a une sorte d'image objectivée de soi qui va l'inciter à monter, pour parler très très vite.
Oui, c'est-à-dire que quand on lit cette phrase « Je n'ai pas plus fait mon livre que mon livre ne m'a fait », livre consubstantiel, etc.,
oui,
j'ai l'impression que d'habitude, quand on l'interprète, enfin, c'est le fait d'écrire le livre sur lequel on insiste. Je crois qu'il faut aussi insister sur le fait de le publier.
Oui, tout à fait.
C'est-à-dire au sens où c'est le publier qui me rend comptable vis-à-vis de l'autre de ce qui a été écrit.
Tout à fait, c'est-à-dire un des points sur lesquels la polémique anti-montagnienne se crispera au début du XVIIe siècle. Comme dirait Malebranche, bon, il avait qu'à écrire ce livre pour lui, qu'est-ce qu'il avait besoin de le publier. Mais c'est vrai que le point décisif, c'est de l'avoir publié. Voilà. Je reviens une seconde sur ce passage que tu évoquais, qui est tout à fait étonnant, à la fin du chapitre de la physionomie, livre 3, chapitre 12. Comme Montaigne dit, même si on m'arrache une promesse par violence, je dois la tenir. C'est difficile à interpréter, parce qu'il y a plusieurs niveaux d'explication. Il y a un petit peu il y a un côté bravache comme ça. Bon, un petit peu. Il y a un côté éthos aristocratique. C'est encore différent. Bon, je suis un gentilhomme. Montaigne l'est fort peu en réalité, donc il surjoue le gentilhomme. Bon, et donc il y a un côté éthos aristocratique. Et puis un argument presque kantien qui consiste à dire si on accepte une exception au respect de la parole donnée, alors tout s'effondre.
Tout se défait.
Voilà. Et là, c'est un argument. Et donc, il y a un mélange, encore une fois, de panache. Bon, après tout, il n'est pas ami d'Henri IV pour rien. Bon, d'Henri de Navarre, puis Henri IV. De panache, d'éthos aristocratique un peu surjoué, et de véritable raisonnement éthique fondamental.
Oui, c'est l'idée que c'est même dit comme ça, que le lien social se défait petit,
oui,
à petit, dès qu'il y a un mensonge.
Voilà, voilà.
Et donc que je suis tenu par ma parole, quelles qu'aient été les circonstances.
Oui, quelles qu'aient été les circonstances
de son énonciation.
Oui, qu'elle ait été arrachée par violence n'est pas une clause dispensatoire. Oui. C'est une thèse extrémiste.
Et c'est une réponse c'est dans le De Officiis de Cicéron,
oui,
qui a, au contraire, c'est la circonstance atténuante, c'est la seule,
oui,
circonstance qui permet de mentir.
Oui. Oui.
Et Montaigne est encore. Plus exigeant. Et alors, évidemment, c'est dans le contexte on ne peut pas oublier que ces passages-là, les passages de la physionomie, sont dans le contexte des guerres de religion, et donc dans un contexte où les individus changent de foi, justement, au gré des circonstances. C'est la conversion qui provoque.
Pour aller dans le sens de ce que tu suggérais sur le fait qu'il ne fallait pas mettre de l'insubstantialité partout chez Montaigne, il y a le passage que j'ai dit reproduit, mais que je n'ai pas utilisé finalement sur les textes photocopiés, où Montaigne écrit qu'il se promène avec quelqu'un qu'il connaît et qui se fait passer pour catholique, alors qu'en réalité, il est protestant.
Ouais.
Montaigne montre que ce personnage, dont on peut comprendre, étant donné la violence de l'époque, la dissimulation, mais que ce personnage est extrêmement mal à l'aise, parce que, et il y a cette phrase extraordinaire, sa conscience témoigne contre lui. C'est-à-dire, il feint d'être catholique pour ne pas avoir d'ennuis, en réalité, il est protestant, et sa conscience proteste. Or, Montaigne rapporte ça, sans beaucoup de commentaires d'ailleurs, simplement, c'est pour expliquer la force de la conscience. Or, on est bien là du côté d'une permanence, cette fois-ci, enfin, une permanence éthique. Enfin, ça, c'est une pièce de plus au même dossier.
Oui, je crois que c'est essentiel d'opposer, comme tu l'as fait, la dimension épistémique et puis la dimension éthique, espèce de limitation qui est apportée à cette variation. Et je crois que, on reviendra à ces discussions et de Sartre et de la mauvaise foi et de Valéry et de Stendhal. C'est à peu près le même débat.
Oui.
Et sur la sincérité, mais la manière dont tu le réfutais est tout à fait convaincante, hein, me paraît très bien. À la fois pour la raison thérapeutique pour l'obstacle ontologique. Merci pour la main courante. Effectivement, très... C'est la main courante, ce rôle. Alors, la question, c'est un peu un détail, mais dans cette interprétation, dans cette lecture de ces deux passages sur le début des essais, enfin, lecture que l'on fait souvent, moi, j'ai toujours eu un petit tracas par rapport à la lecture de ces deux textes. Bon, il y a certainement des deux côtés. Dans les deux versions, il y a la mélancolie, il y a le fond de mélancolie. Mais le début des essais, c'est moins l'écriture des chimères et monstres fantasques que les miscellanées.
Oui, tout à fait.
Ça ne correspond pas non plus. Tu dis, tu écartes la version de 8 et tu choisis la version d'un 8, mais la version d'un 8, c'est pas ça qu'écrit Montaigne, pour commencer. Les diverses leçons.
Oui, mais les deux, pour de 8 non plus, ça ne correspond pas.
Non, pour de 8, ça ne correspond pas non plus.
On est d'accord, ça ne correspond ni pour de 8 ni pour un 8. On est d'accord.
Ça ne correspond pas non plus.
C'est diverses leçons, c'est Pierre Messi, c'est Duboucher, c'est par divers moyens, on arrive à... Bon. Mais Montaigne dira lui-même, dans une formule d'ailleurs qui sonne bizarrement à nos oreilles, mais Montaigne dira plus tard que les premiers chapitres puent l'étranger. Oui. Bon, c'est une drôle de formule, mais Montaigne veut tout simplement dire qu'il a pris à droite et à gauche et qu'il a nourri son texte d'histoire, en fait, qu'il a pioché dans des recueils du temps, dans des historiens du temps.
Donc, ce n'est pas la main courante des monstres, des chimères et monstres fantasques.
Alain Legros a depuis quelque temps l'idée, il soutient une thèse qui est tout à fait minoritaire, je crois, chez les montagnistes, mais moi, je trouve ça assez intéressant. Il pense qu'en réalité, Montaigne a publié les chapitres dans l'ordre dans lequel il les avait écrits. Mmh. Bon, qu'il n'y a aucun effort de composition, que même Montaigne s'y est refusé, si le chapitre 1 du livre 1, c'est par divers moyens, on parvient à même fin. Enfin, c'est parce que c'est qu'il l'a écrit en premier, puis ensuite 2, 3, 4, 5, 6, etc. À un niveau textuel plus élevé, c'est-à-dire le niveau du chapitre, et non pas le niveau de l'énoncé, du paragraphe, et encore moins de la phrase, bien entendu, mais si cette hypothèse d'Alain Legros est bonne, on retrouve l'idée de main courante, de mise en rôle et d'écriture pratiquement au fil de la plume et comme ça vient. Bon, si cette hypothèse est exacte, voilà.
Il est vrai que tous ceux qui ont fait l'hypothèse inverse, c'est-à-dire une composition des essais, ont eu tendance à aller un peu trop loin.
Oui.
Cela dit, il reste quand même que dans le livre 1, il y a le début du chapitre de l'amitié qui décrit une composition.
Tout à fait.
Qui décrit une composition, et c'est ce sur quoi on s'est toujours fondé pour voir qu'il y avait au moins une ébauche d'ordre dans le livre 1.
Mais une composition où il parle des grotesques.
Oui.
où on retrouve, puisque Montaigne dit au début du chapitre 28 du livre 1, de l'amitié, qu'il a fait peindre par son peintre des grotesques, bon, comme on les aimait tant à la Renaissance, depuis qu'on avait découvert la Domus Aurea de Néron, et au milieu, un tableau bien composé. Et Montaigne dit que le chapitre de l'amitié, qui est au fond les obsèques littéraires de la Boétie, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, le chapitre de l'amitié, c'est le tableau bien composé qui va être entouré partout ailleurs, donc tous les autres chapitres du livre 1 sont des grotesques, et là on est très près quand même de l'idée des chimères et des monstres fantasques. Auquel cas le monstre fantasque serait peut-être moins imaginer un cauchemar comme chez Fuseli par exemple, peut-être moins imaginer quelque chose de romantique, peut-être plutôt que Montaigne appelle chimère et monstre fantasque le désordre. Le non sequitur, comme on dit maintenant, enfin le fait que les propositions ne soient pas reliées ou que les thèmes ne soient pas reliés, ou ce qu'il appelle la formule si célèbre, assaut et agambade. Enfin, peut-être.
L'invasion même par les lectures, par la bibliothèque.
Ah oui, très juste. C'est entièrement d'accord.
C'est peut-être ça le cauchemar. Le cauchemar de la bibliothèque.
Oui. Entièrement d'accord. Et que malgré lui, le premier chapitre est tout composé de bouts, de pièces et de morceaux qu'il a trouvés à droite et à gauche, et où il n'y a pas grand-chose de lui. Bon. Mais ce chapitre de l'amitié, puisqu'il dit que le chapitre 28 est le seul composé, dit même explicitement que tout le reste est censé être comme des grotesques. Bon, alors en même temps que Montaigne aime bien faire semblant de se déprécier, bon, c'est toujours d'un maniement un peu discutable, mais...
Bien, on va te remercier.
C'est moi.